cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 2 novembre l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Frère, on est heureux de vous fêter aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, ça fait 70 ans que vous êtes entré chez les Dominicains. Alors pour nous, c'est un exemple de fidélité et on est heureux de prier pour vous et de vous fêter.
Merci. Je ne pensais pas ce jour-là que 70 ans après, je serai ici. Et c'est vrai, il y avait deux entrées au mois de septembre. Je trouvais que c'était un peu trop vite. Et la seconde entrée, c'était le jour des morts, donc ça allait très bien pour entrer. C'est parce que c'est toujours un peu une mort d'entrer. À la vie religieuse, mort ou vieil homme. Et le vieil homme n'aurait pas vécu 70 ans. Il traîne la patte, le vieil homme. Tandis que l'homme nouveau, 70 ans, c'est comme un jour. Et c'est vrai, ça n'existe pas beaucoup. Quand on pense à ça, on dit c'est passé beaucoup plus vite. 70 ans, ça semble très long. Et quand on le vit, c'est pas long. Alors, c'est l'éternité qui commence. Alors, continuons. Voilà les questions. Comment la saisie de l'acte éclaire-t-elle notre vie et aussi notre recherche théologique? La saisie de l'acte montre au cœur de tout ce qui est, il y a inscrit cette espèce de soif de la faim. L'être ne peut pas accepter la médiocrité. Ce serait accepter la puissance. L'être au plus intime de nous-mêmes, de chaque être, est fait pour l'acte, est fait pour être parfait, est fait pour aller toujours vers le sommet. C'est bien ça la finalité. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux jamais m'arrêter. Même à 70 ans, on ne peut pas s'arrêter. Dire maintenant, j'ai le droit à un fauteuil et de m'arrêter. Ce serait aller contre l'être. Quand on voit ça, on le voit hélas dans les hôpitaux, dans l'endroit où on reçoit les vieillards. On fait tout pour qu'ils s'arrête de vivre, donc qu'il n'espère plus, qu'il s'arrête et qu'il se replie sur eux-mêmes. Et au fond, vous pourriez dire, et c'est très juste, que la découverte de l'acte montre que le repliement sur soi est contraire à notre nature, est contraire à l'être. L'être ne peut pas s'arrêter. Il va toujours plus loin. Il ne s'arrête qu'à ce au-delà de quoi il n'y a rien. Et en réalité, s'il réfléchit, il ne peut s'arrêter qu'en Dieu. Il vient de Dieu et il retourne à Dieu. Chacun à sa façon, chacun selon ses modalités. S'exprime du reste la fidélité à la finalité, vous voyez, est très différente. Parce qu'au fond, c'est la fidélité, l'acte. Regarder l'acte, c'est regarder qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de se retourner sur soi. On ne découvre sa source qu'en allant toujours plus loin. Oui, et je dis bien qu'en allant toujours plus loin, l'acte, vous ne l'épuisez jamais. Il vous épuise, mais vous ne l'épuisez jamais. Il vous attire, mais jamais vous ne pouvez vous retourner. Ça y est, il n'y a que Dieu qui pourrait faire ça. Et Dieu ne le fait pas, parce qu'il est Dieu. Mais il est l'acte pur. Vous voyez, quand Aristote découvre Dieu acte pur, c'est justement en nous, l'acte n'est jamais pur. Vous voyez ce que je veux dire? Il est toujours lié à quelque chose qui est en puissance et qui désire. Et suivant que le désir dépasse la puissance, on touche sa fin. Notre fin, elle nous est donnée dans notre désir. Entelekeia. On pourrait presque dire que le désir, c'est entelekeia. Parce que le désir, c'est quelque chose qui nous fait sortir de nous et qui fait qu'on tend vers quelque chose de plus parfait. Celui qui ne désire plus considère qu'il a en lui toute sa perfection. C'est effrayant. Oui. Et c'est vrai pour l'homme, et c'est vrai pour une communauté. Une communauté qui ne désire plus parce qu'elle en a assez, qui s'arrête, oh, c'est suffisant, arrêtons-nous. Vous connaissez ce qu'on dit pour les oiseaux migrateurs. Hein. Les oiseaux migrateurs comme les cigognes, ces animaux si curieux et qu'on aime revoir au printemps et qu'on aime dire au revoir au début de l'automne. Ces oiseaux migrateurs, avant de faire leur grand voyage, font des essais. Et tous ceux qui ne peuvent pas tenir, on les tue à l'endroit. Ils n'ont pas le droit de s'arrêter en route. Ils doivent aller jusqu'au bout. C'est très très cru comme mœurs. Et au fond, je dirais, la vie religieuse, c'est des oiseaux migrateurs. Hein. C'est pas seulement l'individu, la personne, mais c'est tout le groupe qui désire aller toujours plus loin. Évidemment, ce n'est pas stable. Il y a des gens qui aiment le stable. Tant pis, c'est médiocre, mais c'est stable. Non, on ne peut pas supporter la médiocrité. On désire toujours aller plus loin. Alors, pour un individu, pour une personne, ça va encore, parce qu'on est seul responsable de soi. Pour une communauté, c'est très instable. Et c'est très curieux, ça. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important. Vous voyez, quand Catherine de Sienne dit que le désir, c'est ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est parce que c'est l'entelekeia par rapport à l'acte. Si vous désirez, vous attirez à vous, quand vous désirez quelque chose de grand, vous attirez à vous l'acte. Vous le vivez imparfaitement et vous voulez le vivre parfaitement. Vous voyez ? Alors, ça vous fait comprendre que cette recherche de l'acte dans l'être, c'est l'être qui est acte, me condamne à désirer toute ma vie. Un oiseau migrateur qui désire tout le temps plus, qui ne se satisfait jamais de lui. Et c'est ça qui est très beau dans la métaphysique, parce que ça donne à ma vie cet état d'être toujours en désir, de ne jamais s'arrêter. Les choses matérielles, on s'arrête et on est heureux que la chose soit terminée. Les choses spirituelles, c'est-à-dire l'être, ne s'arrêtent jamais. Parce que nous sommes tous radicalement imparfaits dans notre être. Nous sommes une créature. Donc radicalement, nous sortons de rien, ex nihilo. Et il y a toujours en nous cette saveur ex nihilo. Et dans le monde d'aujourd'hui, cette saveur ex nihilo, à la place de nous donner soif de la faim, nous permet de replier sur nous. Nous considérons que la négation est première. Considérer que la négation est première, c'est la suppression de l'acte. C'est s'arrêter à l'imparfait. Et c'est vouloir rester dans l'imparfait. C'est la grande tentation moderne. C'est la grande tentation de notre monde depuis le XIVe siècle, avec Occam. On a dit que la négation était première. C'est Occam qui a dit ça le premier. Jusqu'à maintenant. Alors maintenant, la négation est première dans ce sens que on s'arrête à la négation. Sartre. L'exaltation de la négation. Et l'exaltation de la négation, vous comprenez, c'est le mépris du Créateur. En s'arrêtant à la négation, c'est le mépris du Créateur. Tandis que, quand vous comprenez l'acte, vous dites, le Créateur, ah, c'est l'acte pur. Et j'ai en moi la marque du Créateur. J'ai en moi l'image de l'acte pur. Alors, c'est pas étonnant que je sois tout le temps en appétit. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il y a de terrible en métaphysique, c'est que la métaphysique est au-dessus de l'imaginaire. Quand je parle du désir, vous vibrez tous, parce que l'imaginaire est mobilisé. Quand on parle de l'acte et de la puissance, vous ne vibrez plus. Parce qu'on est dans l'intelligence pure. L'intelligence apparaît comme séparée de la matière quand elle saisit que l'être en acte est premier. C'est très important, vous voyez, de voir la différence entre le point de vue métaphysique et le point de vue psychologique. On va consulter le psychologue quand ça ne va pas. C'est vrai, on ne va pas consulter le psychologue quand tout va bien. Mais quand ça ne va plus, quand il y a un nœud, alors on va consulter le psychologue. Et le psychologue commence à regarder la négation et remonte de négation en négation. Ex nihilo. Vous venez de rien. Et c'est vrai. Sartre, c'est une psychologie métaphysique. C'est la réflexion sur la conscience qu'on a de la primauté de la négation, parce que dans la négation, je suis premier. Ce n'est plus l'objet. Vous niez l'objet. Il n'est pas. Donc, et vous, vous êtes. Donc vous êtes premier. Et vous croyez que c'est la liberté. Puisque pour Sartre, la liberté naît de cette négation, la néantisation, qui est source de votre liberté. C'est vrai, c'est une liberté subjective. C'est votre liberté. Mais en même temps, c'est la négation de toute espérance. C'est pas étonnant qu'il est mort dans le désespoir. Parce que toute la vie, il avait toujours pris la primauté de la négation. Oui. Et nous vivons, parce que c'est lui qui a marqué très fort ça, nous vivons de ce primat de la négation. On n'a qu'à réfléchir un petit peu sur sa vie dans la vie commune, ça se manifeste le mieux, ça. On voit toujours les défauts du prochain avant ses qualités. Jésus avait dit ça en langage évangélique. Tu vois en premier lieu la poutre dans l'œil de ton voisin et tu oublies qu'elle est d'abord en toi. Et c'est vrai, on projette ça. La négation qui est première pour nous, on la projette sur le prochain. C'est donc extrêmement important de la saisie de l'acte. Oui, c'est, je dirais, au point de vue métaphysique, c'est vraiment le moment où l'intelligence, comme intelligence, l'intelligence humaine, comme intelligence, se dresse au-delà de toute potentialité. L'acte est premier. Et l'acte est indépendant de la potentialité. C'est pour ça que je vous disais, l'acte est fondement de la liberté, alors que la puissance, elle est dépendante de tout le conditionnement. Donc, comment la saisie de l'acte éclaire-t-elle toute notre vie ? Elle éclaire que toute notre vie ne s'épanouit que grâce à la finalité. Dès qu'il n'y a plus de finalité, notre vie se replie sur elle-même, vu la complexité dans laquelle nous sommes, vu la complexité du milieu dans lequel on est, on se replie. Il n'y a plus cette espèce de liberté qu'on a quand on découvre l'acte. Liberté fondée sur la victoire. La victoire sur la potentialité. La victoire sur tous les conditionnements. Ce n'est jamais le conditionnement qui peut nous finaliser. C'est l'acte. Alors, en théologie, vous comprenez bien combien cette philosophie de l'acte est nécessaire, puisque l'acte de foi me permet de toucher, d'expérimenter l'éternité. L'éternité est présent dans tous les instants de ma vie. Je ne touche l'éternité que dans l'instant de ma vie. Puisque le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, donc je ne découvrirai jamais l'éternité par le passé. Je ne découvrirai jamais l'éternité par le futur. Je ne découvre l'éternité que par l'instant présent. Et c'est fugitif, hein? Parce que l'instant présent, il passe vite. Hein? Il passe très vite. Et c'est le seul moment où votre intelligence touche l'éternité, dans l'acte de foi. C'est, C'est très impressionnant, il reste. C'est l'éternité dans le temps. Et c'est ça que Merleau-Ponty, en réfléchissant philosophiquement sur la vie du chrétien, dit: la foi chrétienne mélange tout, l'éternité et le présent. Alors, les deux sont distincts. L'instant présent, je le vis, et grâce à la foi, cet instant présent touche l'éternité de Dieu. L'éternité de Dieu est présente dans ma vie. Et ma vie reste ma vie humaine, mais ma vie humaine peut être assumée par Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Et c'est quelque chose de très important, ça, de saisir l'éternité dans l'instant présent. Et comme cet instant présent passe très vite, je ne possède pas l'éternité. Je suis en attente. L'éternité, un jour, me sera donnée comme éternité. Et je ne posséderai jamais l'éternité, mais j'en vivrai. Donc, voyez que la recherche théologique ne peut être une recherche théologique que si l'acte, la philosophie de l'acte, est présente. Ce n'est que par l'acte que ma philosophie peut aider d'éclairer le mystère de la parole de Dieu. Parce que le mystère de la parole de Dieu est une révélation qui vient directement de Dieu, donc qui est toujours en acte. Je ne peux pas éclairer l'éternité de Dieu par la puissance. La puissance est le conditionnement de ma vie, pris au niveau de mon conditionnement, au niveau des limites, reste à la porte de l'éternité. Tandis que mon intelligence qui atteint l'acte, elle touche l'éternité que ma foi me donne. Donc, c'est par l'acte qu'il y a une possibilité de comprendre la coopération de mon intelligence métaphysique et de la foi. S'il n'y a pas cela, je diminue la parole de Dieu par mon intelligence. Et donc la théologie diminue la foi. Et c'est ce qui arrive très souvent. Le théologien n'a plus la foi de l'enfant. Et ce qu'il retient, c'est les conclusions théologiques. Alors, les conclusions théologiques, c'est son avoir, ce n'est pas l'éternité. C'est l'acte de foi dans toute sa pureté qui atteint Dieu. Alors, pour atteindre justement ce mystère de la parole de Dieu, qui est une ouverture divine vers l'éternité, Dieu se livre à moi en me parlant. Dieu se livre à moi en parlant, mais je ne suis capable de le recevoir que dans la foi. La parole de Dieu, pour rester parole de Dieu, je ne peux recevoir la parole de Dieu que dans la foi. Et Dieu se livre dans la foi. Alors cette parole de Dieu, elle se communique avec l'habit, l'extérieur d'une parole humaine. Donc elle est dans le temps. Elle est à travers les manières humaines de parler, c'est ou de façon optative, ou l'affirmation, ou l'espérance, ou les images. Elle se livre à travers tout ça. Toutes les manières de parler sont présentes dans l'écriture. Toutes les manières de parler. Je crois qu'il n'y en a pas une qui échappe à l'écriture. Il y a même des raisonnements. Dieu raisonne pour mieux se faire comprendre. Quand vous regardez l'épître aux Hébreux, il y a des raisonnements. Quand vous regardez le livre de la sagesse, il y a des raisonnements. Il y a des affirmations, il y a des négations, tout. Mais au-delà de toutes ces modalités particulières, il y a ce qui est propre, ce qui est unique, c'est une parole divine. Même le côté enfantin de la Genèse, de la création de l'homme et de la femme, c'est très enfantin. C'est merveilleux. Comme simplicité. Pour que la femme aime l'homme, oh, c'est Dieu qui a sévi la côte de l'homme, le geste du chirurgien, et en a fait une femme. C'est enfantin. Dieu n'a jamais fait ça. Retrouver la côte de l'homme dans la femme. Elle a beau chercher, tout son corps c'est elle. Il y a une unité. Mais Dieu explique ça. C'est très enfantin. Mais il y a quelque chose de divin. Je n'ai pas le droit de dire que moi je ne m'en occupe pas, c'est trop enfantin. Nous sommes le siècle de la science. Et aujourd'hui, au point de vue scientifique, c'est impossible. C'est absolument impossible que Dieu ait fait la femme comme ça. Mais c'est évident. Vous prenez ça matériellement. Vous ne comprenez plus les histoires parce que vous êtes scientifique. Et jouez avec votre petit enfant. Quand vous jouerez avec votre petit enfant, vous comprendrez qu'il faut raconter des histoires. Et il comprend. Si vous prenez votre langage scientifique avec l'enfant, il ne comprendra rien du tout. Rien du tout. Le langage enfantin, mais c'est Dieu qui s'en sert. Et c'est ça qui est admirable. Parce que Dieu prend le langage d'un père de famille jouant avec ses enfants. La sagesse joue. Oui, Dieu joue avec nous. Mais il faut entrer dans ce jeu. Ne soyez pas trop sérieux en face de Dieu. Parce que vous êtes quelquefois beaucoup plus sérieux que Dieu. Parce que le sérieux, vous le prenez matériellement. Alors qu'il n'y a pas à le prendre matériellement. Il y a prendre. Dieu s'adapte merveilleusement à moi. Et alors, l'acte est le moment où votre intelligence se sépare de toute image. Vous n'avez pas d'image pour l'acte. Pas commode, hein ? Vous n'avez pas d'image pour l'acte. La ratio actus. Il n'y a pas d'image. Vous affirmez. Il est. Et vous voyez tout de suite que dès que je suis dans les choses humaines, mon acte est toujours présent dans la puissance. Alors, Aristote a quelque chose de très beau là-dessus. Il dit que l'acte est toujours ou présent dans l'être potentiel, ou il est séparé. Alors, vous avez le N et le pros. L'acte est dans N. Rien n'est plus à l'intérieur de la puissance que l'acte. Il y a un mot que les scolastiques ont pris et qui est très joli, imbibitur. Alors traduisez imbibitur. Simple mot, imbibitur montre magnifique comment l'acte est dans. Ça c'est le latin. En grec, il n'y a pas une bibitour. N, tout simplement, il est dans. et l'acte est pros, vers. Alors, vous voyez, entelekio. L'acte est entelekio. Il est dans. Et l'acte est vers. Il est transcendant. Il ne se mêle à rien. Il est séparé de toute potentialité. Il est. C'est en et pros. Et vous voyez, on ne peut pas l'exprimer d'une seule façon. Entelekia, energeia. Energeia, pros. Entelekia, en. Alors, pour l'achèvement d'une capacité vitale, la vision par exemple, l'acte qualité, l'acte exerciste, l'acte source d'exercice, sont dans le même être, aident, sont dans le même être. Tandis que pour l'amour d'amitié, l'energeia, source est dans celui dont l'être n'est pas le même, dans l'autre, comme moi, également pour la contemplation. Donc vous voyez, en pros. À partir d'une expérience où l'acte est dans l'être, et à partir d'une deuxième expérience où l'acte est dans un être autre, est-ce qu'on peut induire systématiquement que l'acte est principe selon la fin de l'être comme tel? Merci beaucoup. Oui, N et pros. Vous voyez, je n'avais pas lu l'objection. C'est exactement ça. Entelekia, energeia. Les deux, pour moi, hein, je dis pour mon intelligence humaine, c'est tellement difficile de saisir l'acte séparé de toute matière, donc sans image, puisqu'il est séparé de toute matière. C'est la pure, c'est l'être en tant qu'il est être, sans potentialité, sans aucune potentialité. Vous comprenez que cela doit être, que cela est, mais tout de suite, vous reprenez Entelekia, vous vous reposez dans le pros, l'orientation de l'acte qui est à l'état pur, donc qui est fin. C'est tout à fait juste. L'acte qui est fin. Tandis qu'Entelekia, l'acte n'est pas fin. Il est vert. Il fait sortir de moi. Donc il n'est pas fin puisqu'il me fait sortir de moi. Il regarde l'autre. L'amour que vous avez pour Pierre, que vous le possédez en vous cet amour. Il est vous. Vous, dans votre finalité. Pierre vous finalise et finalise votre amour. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux expressions. Et c'est très juste de prendre ces deux expressions pour saisir ce que c'est que l'acte. Étant donné la difficulté que j'ai de saisir quelque chose sans image. Hein. D'habitude, vous avez toujours une image. Pour Entelekia, vous avez une image. Ah, ça, c'est pour ça que c'est reposant, Entelekia. Mais Energeia, c'est essoufflant. Vous n'atteignez que par votre désir vert. Vous êtes tout entier ad. tourné vers. Ce qui a le plus acte dans votre amour pour Pierre, c'est Pierre. C'est pas votre amour pour Pierre qui est le plus acte, c'est Pierre. C'est Pierre qui vous attire. C'est Pierre qui est l'acte de votre amour. C'est Pierre qui est fin acte de votre amour. Alors évidemment, quand je dis Pierre, vous dites, ah, il y a une image, Pierre, je vois mieux. Mais non, mais l'image que vous avez n'est pas acte. Donc, vous supprimez l'image, vous niez l'image, et vous dites que c'est l'acte, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et vous l'exprimez négativement. Vous l'exprimez négativement. Vous niez ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et on pourrait dire, vous voyez, et c'est vrai, ça donne un peu cette impression. Quand vous avez le vertige, qu'est-ce que c'est que le vertige ? C'est l'attraction de l'abîme. Hein ? Le vertige, c'est l'attraction de l'abîme. Hein ? Quand vous êtes plus faible, l'attraction de l'abîme est terrible. Vous montez un escalier, puis vous regardez, oh ! La tête première pousse. Et vous avez envie de vous jeter en bas. Vertige. Curieux, hein, le vertige. Mais il y en a qui n'ont pas de vertige. Quand vous êtes d'aplomb, très bien portant, tout fait vous-même, vous n'avez pas le vertige. Non, vous regardez. Mais vous ne comprenez pas ce que c'est que l'abîme. Vous restez au-dedans de vous-même et l'abîme, oh, je ne le regarde pas. Tandis que l'abîme vous attire. Ah! Vous n'êtes plus vous-même. L'abîme vous attire. Vous perdez la tête. C'est pour ça qu'elle passe devant vous. Et on perd la tête. On fait attention. Je sens bien, étant fatigué, que je pourrais très bien faire cette bêtise, passer devant. Et je comprends très bien comment ceux qui en ont par-dessus la tête de la vie, qui sont dans des situations impossibles, ben oui, la force de l'abîme. Les suicides, c'est la force de l'abîme. C'est cette pirouette. La force de l'abîme, c'est justement le primat de quelque chose qui vous attire. Alors, je prends l'exemple matériel de l'abîme matériel, mais prenez l'exemple de l'abîme spirituel. La causalité matérielle m'aide toujours à comprendre le point de vue de la fin. Il y a un lien très particulier, il y a une complicité très curieuse entre la fin, l'acte, et la cause matérielle. La cause matérielle, vous la saisissez parfaitement par l'attraction de l'abîme. L'attraction de l'abîme est quelque chose de très spécial. Il faut faire attention. L'attraction de l'abîme. Mais, je réfléchis, c'est la cause matérielle. Il y a quelque chose d'analogue, et j'ai tout à fait le droit de dire quelque chose d'analogue, dans l'attraction de la fin, qui me fait hâte, et je suis tout entier tourné vers. Vous voyez, dans la séduction, c'est souvent matériel, c'est souvent sensible, mais dans la séduction, il y a ça, vous êtes tourné vers, instinctivement, c'est plus fort que moi. Ah, je peux pas m'empêcher de regarder. C'est plus fort que moi. Vous êtes séduit. Ad. Et dans l'ordre de l'être, vous avez l'acte. L'ad. C'est pour ça que in et ad, c'est très fort. Et Aristote le dit tout de suite après avoir fait cette induction, tout de suite. L'être, il est in et ad. C'est-à-dire l'être en acte. Il est in et acte. Et transcendant. L'abîme, c'est la transcendance de la cause matérielle. Et la cause matérielle a sa transcendance. Elle est implacable. La cause matérielle est implacable. Elle est tyrannique, la cause matérielle. Si on ne fait pas attention à la matière se venge. C'est très vrai, ça. Vous dominez votre corps quand vous êtes en pleine force, mais si vous lui demandez trop, il se venge. Il vous reprend. Et l'absolu de la cause finale, ad. Bon. Ceci nous fait comprendre que lorsque nous avons fait cette induction le plus loyalement possible, que nous avons saisi à l'intérieur de l'être, l'être se donne à moi à travers des modalités différentes, mais je redécouvre toujours, en dehors de l'absolu, toujours la complicité de l'acte in et ad. Je vais donc essayer de voir quelles sont les modalités spéciales de l'être en acte. Comment l'être en acte se présente à moi? Je ne dis pas les poses, je dis les modalités. C'est encore quelque chose de spécial. Comment l'être en acte qui est au-delà de la forme, mais le prendre au moment où il est au-delà de la forme. L'être lié à la forme, le in. Alors, l'être en acte dans son immanence. La première forme de l'être en acte, je l'ai dans l'être physique. Le mouvement. Ah. Le mouvement, c'est la première forme de l'être en acte. Le devenir. Le mouvement. Quand un petit gosse commence à marcher, ah, vous découvrez le mouvement. Et c'est quelque chose de très curieux. Hein. Vous êtes tellement habitué de marcher que vous n'y pensez pas. Mais chaque fois que vous marchez, c'est un ébranlement de l'être. C'est le cas de le dire. C'est un ébranlement d'une cathédrale. Vous êtes une cathédrale. Vous êtes telle complexité. Et vous bougez. Le mouvement. Le mouvement, c'est l'acte enfoui dans le devenir. Dans ce qui est matériel. Et qui pourtant émerge de ce qui est matériel. Le mouvement, c'est l'acte d'un être en puissance. L'acte dans l'être en puissance, le devenir. Vous savez bien que la première recherche philosophique en Grèce, c'était la distinction entre l'être et le devenir. Et on peut dire que toute l'histoire de la philosophie, c'est toujours l'histoire de l'être et du devenir. La primauté de l'être sur le devenir, ou la primauté du devenir sur l'être. C'est deux climats philosophiques totalement différents. Si nous sommes réaliste et objectif, nous disons que tout devenir est ordonné à l'être. Ah, vous voyez, il aide. Mais dans le devenir, il y a la complicité de l'acte, puisque le devenir est acte. Je bouge, je me lève, je marche. Je suis en acte. Et je suis dans l'acte par rapport à mon devenir. C'est dans le devenir que l'acte se trouve. Et il est complètement, en quelque sorte, enlisé par le devenir. Vous ne pouvez pas le séparer. Vous ne pouvez pas couper l'être du devenir. Le devenir est. Et quand vous dites « ceci est », le « ceci », il est toujours en mouvement. Le monde physique est toujours en mouvement. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. C'est pour ça qu'on a la bougeotte. On veut toujours bouger. Il est. Vous voyez, chaque fois que vous posez le jugement « ceci est », vous montrez la victoire de l'être en acte sur le devenir. Et ça, on en a tous l'expérience. Hein. Vous pouvez faire l'expérience de ça. Quand vous affirmez ceci est, le ceci, il est en mouvement. Le ceci, il est en puissance. Le ceci est indéterminé et vous le déterminez. Ah, vous le déterminez, c'est pas tout à fait juste. Vous le terminez. Parce que le ceci est parfaitement déterminé. Il est ceci. Donc, il est chien, crapaud, homme. Ceci. Table. Ceci. C'est parfaitement déterminé. Et vous dites qu'il est. Vous ajoutez l'acte d'être. Il existe. Il existe, c'est l'acte d'être. Et quand vous dites ceci est, vous terminez le ceci. Vous ne le déterminez pas, et c'est vrai. L'être en acte ne détermine pas. L'être en acte actue. Et actuer, c'est terminé. C'est achevé. Cette expérience que nous pouvons faire et qui est très importante, puisque je vous ai dit que toute la métaphysique et toute la philosophie commencent par cela. Mais quand je dis « ceci est », je le dis avec une intelligence plus ou moins grande. Et quand j'ai découvert l'être en acte, mon affirmation « ceci est » devient très lumineuse. Je vois bien la différence du « ceci » des déterminations et « ceci est ». Alors je vois cette chose terrible qu'a fait Husserl. De dire « et » mis entre parenthèses. Je ne peux faire ceci que dans l'abstraction mathématique. Normalement, je ne fais pas cette abstraction. Mais en mathématiques, j'ai un être-relation. Et la relation peut être réelle, même quand elle est de raison. Et donc, c'est possible en mathématiques de mettre entre parenthèses l'être. Mais ce n'est pas possible en philosophie. Vous ne pouvez pas séparer de votre devenir l'être. En séparant l'être de votre devenir, vous supprimez votre devenir, parce que votre devenir n'est que dans le devenir. C'est très curieux, ça. Quand vous affirmez ceci est de la réalité toute simple, l'être est dans votre devenir de façon telle que le devenir n'existe, il n'existe que dans le devenir. Alors je comprends comment cette distinction de l'être et devenir est capitale en philosophie. De voir que le devenir est pour l'être et non pas l'inverse. Quand vous mettez que l'être est pour le devenir, vous refusez la philosophie. Vous refusez le progrès de l'intelligence, puisque mon intelligence seule affirme ceci est. Le devenir, je le touche, mais l'être, vous ne le touchez pas. Vous le touchez par l'intelligence. L'être est en acte. Votre intelligence pure peut le toucher. Mais vous ne pouvez pas le toucher par votre main. Tandis que le devenir, oui. Je caresse un chien, je caresse le devenir. Ce bon petit chien, il existe dans son devenir, pas autrement. Or, la philosophie contemporaine dans la phénoménologie fait que l'être est pour le devenir. Et dans la phénoménologie, je ne vois que le devenir. C'est le devenir qui vient absolu, le vécu. Tout vécu est dans le devenir. Et la mise entre parenthèses de l'être, ce que Husserl demande, la mise entre parenthèses de l'être pour ne voir que le devenir, pour ne voir que le vécu, supprime la philosophie. Ça supprime la vitalité de l'intelligence qui est faite pour l'être. Ceci est. Donc, la première chose, quand j'ai découvert l'absolu de l'être, de l'absolu de l'acte, de l'être en acte, c'est de regarder tout de suite là où je saisis en premier lieu la distinction entre le devenir et l'être.